Bon, maintenant, une dernière communication brève qui concerne le point sur les inhibiteurs de l'aromatase, 14 ans après les AMM, comme adjuvant en traitement du cancer du sang. Et vous allez voir que je rejoins la problématique. Donc, c'est le docteur Daniel Barbotin qui va nous faire cette présentation. Elle se présente comme médecin gynécologue et patiente.
Alors moi je voulais parler donc des inhibiteurs de l'aromatase. On est aujourd'hui à 14 ans après l'AMM et surtout la sous-estimation des effets indésirables. Donc moi je ne remets pas en cause le bénéfice, mais je vais vous montrer comment on s'y prend pour sous-estimer les effets indésirables. Alors le traitement hormonal adjuvant du cancer du sein est le traitement anticancéreux le plus prescrit au monde. Donc les enjeux sont considérables. Les inhibiteurs de l'aromatase sont prescrits aux femmes ménopausées ayant un cancer du sein hormonodépendant en première intention. Il y a trois médicaments, ils ont un effet de classe. Alors le mode d'action est très important parce qu'il explique la mauvaise tolérance. Après la ménopause, les ovaires ne sécrètent plus d'œstrogènes. Par contre, ils continuent à sécréter des androgènes en petite quantité, les surrénales également. Et ces androgènes sont transformés en œstrogènes par l'aromatase. Et les médicaments agissent à ce niveau-là, ils diminuent de 96 à 99% l'action de l'aromatase. Donc la conséquence est une carence en œstrogène systémique mais également locale dans presque tous les tissus, qui est extrêmement profonde, qui n'est pas physiologique bien entendu, et qui n'avait jamais été rencontrée avant leur arrivée sur le marché. Donc ça correspond, ça équivaut à une castration chimique extrême. Alors, moi, je ne reviens pas sur le bénéfice, mais c'est quand même important de le rappeler. Le bénéfice a toujours été évalué par rapport au tamoxifène, qui est la molécule de référence. Donc, selon les laboratoires, au moment des AMM, ils avaient été annoncés comme plus efficaces, mieux tolérés, et on annonçait que le bénéfice allait progresser. Donc, les études ont été reprises, et pour chaque molécule, on a appris que le bénéfice était de 2,5% en supériorité absolue sur le risque de récidive. Mais on mélange toutes les récidives, homolatérales, contralatérales et métastatiques. Or, elles n'ont pas la même gravité et la survie globale était nulle. Alors, les cancérologues ont considéré qu'il fallait anticiper la survie globale. Bon, c'est vrai que ces cancers récidivent assez tardivement, donc la survie globale à 5 ans n'avait pas une grande signification. Aujourd'hui, on dispose donc d'une méta-analyse et on n'apprend qu'à 5 ans. En rassemblant toutes les études des plus de 31 000 patients, la survie globale existe, même si elle est très faible, elle est de 15% en supériorité relative. Et c'est toujours comme ça avec les médicaments, quand ils ont une supériorité faible, et enfin, un très grand nombre de patients pour la voir apparaître. Alors on a aussi les résultats à 10 ans pour 50 traitements, et là on se rend compte que le bénéfice n'a pas progressé, contrairement à ce qu'avaient annoncé les laboratoires. Ensuite, il y a des petites études sur une durée supérieure à 5 ans, mais là c'est très compliqué, parce que certaines ont eu tamoxifène puis inhibiteur, d'autres inhibiteurs puis tamoxifène. Il y a quand même des femmes qui ont eu 10 ans d'inhibiteur de l'aromatase, mais elles ont été sélectionnées pour leur assez bonne tolérance à 5 ans. Et dans toutes ces études, on se rend compte qu'il y a une diminution du risque de récidive, mais pas de gain en survie globale. Alors la conséquence, enfin la conclusion, c'est que la diminution du risque de récidive porte surtout sur la récidive contralatérale. Alors la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est bien le but recherché? Alors le bénéfice sur la récidive en général, donc sur 100 patients traités pendant 5 ans avec la tamoxifène, on diminue de 40, donc 40%. Avec les inhibiteurs, on ajoute 25%. Mais sur le bénéfice en survie globale, alors le tamoxifène évite le décès d'une femme sur 25 pour 50 traitements et un décès supplémentaire sur 40 femmes pour 10 ans de traitement. Alors les inhibiteurs de l'aromatase, ben, c'est le même bénéfice plus on ne sait pas bien parce qu'il y a diverses interprétations. Certains disent que la mortalité par cancer du sein diminue légèrement mais que la mortalité cardiovasculaire augmente. Et les cancérologues disent que 5 ans d'inhibiteurs de l'aromatase sont équivalents à 10 ans de tamoxifène. Le problème, c'est que les cancérologues préfèrent toujours parler de survie sans récidive que de survie globale, et c'est un véritable dialogue de sourds. Alors, les premières recommandations officielles pour la France ont été publiées après le congrès de Nice-Saint-Paul-de-Vence en 2005. Elles incitaient à la prudence à cause de l'absence de survie globale et des entendu, mal connu, à moyen et long. Ces recommandations n'ont pas été suivies, elles ont été rapidement oubliées. Aujourd'hui, le tamoxifène est recommandé en cas de mauvaise tolérance ou de très bon pronostic, mais c'est pareil, elles sont très peu suivies. Les effets indésirables, ils sont minimisés, sont même niés. On considère que 30% des femmes le tolèrent assez bien. Pour 30 à 40%, la tolérance est très mauvaise. Entre les deux, bah, c'est coup-ci, coup-ça. Ils ont des effets sur la qualité de vie, cardiovasculaire, neurocognitif, postéo-articulaire. Donc ces effets étaient attendus. Ils n'ont pas été anticipés, contrairement à la survie globale. Les effets sur la qualité de vie, bah, c'est comme à la ménopause, mais ils sont parfois très importants. Ce qui est intéressant, c'est qu'une étude allemande, commandée par les cancérologues et réalisée par un professeur de psychologie, a étudié les facteurs de risque qui accompagnent les effets. On a étudié l'étouffée de chaleur, la prise de poids, les douleurs articulaires. La conclusion, c'est que le pessimisme, l'anxiété et la dépression augmentent les effets. La conséquence, c'est que certains cancérologues disent qu'il est préférable de ne pas informer les femmes, parce que quand elles sont informées, elles se plaignent davantage. L'étude a été reprise par Fin Actuelle à l'occasion d'Octobre Rose, et le titre de l'article, c'était « Craindre le pire, d'ignorer l'efficacité du traitement ». Alors, le Formandel a réagi en disant que l'étude était mauvaise scientifiquement, et que non, les effets indésirables n'étaient pas psychosomatiques. Les effets cardiovasculaires, ben, ils étaient attendus. Les accidents cardiovasculaires figurent dans le RCP des médicaments, mais les cancérologues disent qu'ils sont exceptionnels. Alors, il y a un médecin américain qui est canadien qui dit depuis le début qu'ils augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, d'insuffisance cardiaque. Le mode d'action est connu. Il s'agit d'une augmentation du LDL cholestérol, de la tension artérielle, une modification de la fonction endothéliale, des phénomènes inflammatoires et une augmentation du risque de thrombose, même si elle est plus faible qu'avec le tamoxifène. Ces effets figurent sur la notice bien en évidence au Canada, aux États-Unis. Mais en France, on n'en parle toujours pas. Très récemment, les gynécologues endocrinologues de l'hôpital Cochin ont repris la bibliographie et confirment l'avis du docteur Ethan. La survie globale est la même avec le tamoxifène qu'avec les inhibiteurs de l'aromatase. La toxicité est différente. Le tamoxifène augmente le risque de thrombolytique veineux et les inhibiteurs de l'aromatase augmentent le risque de coronaropathie. Alors, on peut se poser la question, qu'en pensent les cardiologues et cancérologues? Ben, rien. Il n'y a aucune publication là-dessus. Alors récemment, on nous apprend qu'une nouvelle spécialité est née, la cardio-oncologie. Donc le but, c'est de collaborer au sujet des chimiothérapies et des thérapies ciblées, mais ça ne concerne pas les inhibiteurs de l'aromatase. Alors les effets neurocognitifs, ils étaient attendus, ils n'ont pas été recherchés. Les tests neuropsychologiques ne montrent pas d'anomalies caractéristiques, mais ils sont peu adaptés. Les femmes se plaignent de troubles de la mémoire, de la parole, surtout les femmes les plus jeunes, et en association avec la suppression ovarienne. Aux États-Unis, une étude a montré des hypométabolismes au PET scan sans anomalie au test neuropsychologique, donc elles sont considérées comme sans signification. Une étude française a été réalisée sur 74 patients, 37 sous PEM, 37 sous inhibiteurs, sur un an avec des tests neuropsychologiques. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Un consensus a été établi, les troubles existent, mais ils sont liés à l'anxiété et à la dépression. Certains craignent une augmentation de la maladie d'Alzheimer. On considère qu'il faut attendre 15 ans pour voir les répercussions, on n'y est pas encore. Alors les effets musculo-squelettiques, ben, ce sont les plus spectaculaires, ils étaient attendus, ils n'ont pas été recherchés dans les études. Les effets annoncés étaient des douleurs articulaires et des effets musculo-squelettiques sans autre précision. Alors l'ostéoporose est le seul effet réellement reconnu et pris en charge. Les effets articulaires sont très importants. À l'hôpital Cochin, une étude a été réalisée sur le changement d'inhibiteur de l'aromatase. La conclusion, c'est que le changement ne fait pas disparaître les douleurs, parce qu'ils ont un effet de classe, mais permet la poursuite du traitement, au moins momentanément. Les cancérologues le pratiquent largement. Moi, j'estime que c'est de la tromperie. En physiologie, ils modifient la perception de la douleur au niveau central. Ils ont un effet suppresseur de l'effet trophique des œstrogènes sur le cartilage. Ils entraînent une libération de cytokines pro-inflammatoires au niveau articulaire. Et ils ont un effet inducteur de pathologies auto-immunes. Dans les études observationnelles, des pathologies ont été décrites, sont des tendinites, des ténosynovites, des synovites, une augmentation du risque polyarthrite rhumatoïde. Toutes les articulations peuvent être touchées. Certaines patientes ont un syndrome inflammatoire biologique modéré. Certaines ont des anticorps dont la signification n'est pas connue. Alors les cancérologues nient les arthrites parce qu'ils disent qu'elles n'apparaissent pas dans les études. Elles apparaissent dans 2 RCP sur 3. Elles figurent sur les notices de 3 médicaments. Les rhumatologues préfèrent évoquer des inflammations. articulaire local. Alors, on ne sait pas bien quelle est la différence avec arthrite. Il n'y a aucune étude sur les conséquences de l'inflammation. Pourtant, la conséquence des sinovites dans les rhumatismes inflammatoires et dans les poussées d'arthrose est la déstructure articulaire à plus ou moins long terme. En clinique, les effets sont reconnus, les ténosynovites, les synovites, la révélation d'une arthrose préexistante devenue inflammatoire. Des effets sont niés, c'est l'arthrose secondaire au niveau des articulations siège des synovites et l'augmentation du risque d'arthrose en général par la suppression des effets trophiques. Des effets ont été reconnus puis contestés, c'est les polyarthrites rhumatoïdes, les maladies auto-immunes, les syndromes de Cushing-Sjögren. En plus, on voit des rhumatismes inflammatoires chroniques, iatrogènes, atypiques, qui sont des pathologies nouvelles, qui sont niées officiellement. Pourtant, certains les appellent pseudo-polyarthrites rhumatoïdes. Le professeur Perrault évoque dans ses publications de polyarthrite d'allure rhumatoïde, qu'il dit exceptionnelle. Et le professeur Feuprel parle de rhumatisme hormonodépendant de type polyarthrite rhumatoïde séronégative. Comment peut-on dire que c'est exceptionnel dans la mesure où ça ne figure pas dans les études, que c'est nié cliniquement et que la pharmacogénèse ne fonctionne pas? Le professeur Perrault est spécialiste de la douleur. En 2013, il dirige une thèse de doctorat sur les facteurs de risque qui accompagnent les douleurs. La conclusion, c'est que l'anxiété, la dépression, la personnalité sont des facteurs qui aggravent les douleurs. Il rédige une publication sur les causes, et les causes, c'est l'arthrose, la fibromyalgie, et pourtant, il n'y a aucun examen d'imagerie dans cette étude. Alors, un consensus a été élaboré, la cause exacte des douleurs n'est pas connue, elles sont bénignes, elles sont liées à une sensibilité exagérée de la douleur d'origine centrale, et il dit aussi que c'est une expérimentation très intéressante. La conclusion, c'est que il s'agit d'un syndrome douloureux, musculosquelettique lié aux inhibiteurs de l'aromatase. Cette théorie est reprise par les cancérologues. Et moi, j'étais tellement étonnée de cette interprétation que j'ai suivi les interventions du professeur Perrault. Alors, il est convoqué comme expert devant la commission d'enquête à l'Assemblée nationale en juin 2016 sur la fibromyalgie. Donc, il explique ce qu'est la fibromyalgie et il cite l'exemple des douleurs articulaires sous inhibiteurs de l'aromatase. Il a même prêté serment. Alors, au colloque de sénologie à l'hôpital Saint-Louis en septembre 2017, un sujet traite de la toxicité au long cours des inhibiteurs de l'aromatase. S'agit-il de fantasmes ou de la réalité? On apprend que pour certaines patientes, les douleurs articulaires ne disparaissent pas à l'arrêt du traitement. On parle des effets cardiovasculaires et de la survie globale, mais il n'y a pas de conclusion. On évoque aussi les effets neurocognitifs, mais sont présentés les chiffres des AVC. Donc les cancérologues ne font pas la différence entre les AVC, qui sont des pathologies cardiovasculaires, et les troubles neurocognitifs proprement dit. On apprend aussi que jusqu'à 73% des patients arrêtent le traitement, et malgré ça, au congrès de San Antonio l'année dernière, les recommandations sont d'allonger les traitements. On considère que la durée idéale est de 7 ans. Alors, aux États-Unis, il y a quelques années, une enquête a été réalisée sur la souffrance qui persiste après le traitement du cancer. On se rend compte que c'est après le cancer du sein que la souffrance est la plus importante. En France, le plan cancer a permis le financement par un emprunt de 14 millions d'euros de l'étude Canto, cancer vire cancer et toxicité. Donc le but est d'étudier les toxicités des traitements du cancer du sein. Plusieurs études ancillaires sont en cours. Il n'y a aucune étude sur les inhibiteurs de l'aromatase. La pharmacogénèse ne fonctionne pas. Alors en Belgique, ces médicaments sont réservés aux femmes dont le risque de récidive est important. Les cancérologues français disent que c'est pour des raisons économiques et le professeur Martine Picard dément. Pour elle, le bénéfice-risque n'est positif que dans ces situations. Elle accuse clairement les lobbies pharmaceutiques. En conclusion, je vais citer Gilles Joannet. Il est aujourd'hui haut fonctionnaire à la Cour des comptes. Il est ancien directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie. Et il écrit « Prévenir un scandale sanitaire provoqué par le médicament est quasi impossible aujourd'hui parce que le système ne le permet pas. »
Plus que possible.